Zöld.
Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Contente de vous retrouver aujourd'hui. Petite réflexion du vendredi. Vous, à 13 ans, vous faisiez quoi? Moi, à 13 ans, là, mon gros bonheur, là, c'est de prendre ma trottinette, toujours sur le trottoir, puis de courir me chercher une slotch ou une pointe de pizza au coin de la rue, là. Je me sentais-tu assez libre, assez gangster avec ma trottinette, là, sur la rue Renoir? Hey, je roulais ça comme pas possible. Faut dire, faut croire que on fait plus à 13 ans comme on faisait avant. Hein? 13 ans aujourd'hui, ce n'est plus la slotch et la pointe de pizza qui intéressent les jeunes de 13 ans parce que on voit les manchettes puis on dirait que le crime est de plus en plus jeune. On n'a plus les criminels qu'on avait autrefois. Maintenant, nos criminels, ils ont 12-13 ans. Ben oui, 12-13 ans. En l'espace de quelques semaines, là. Je recommence avec la nouvelle d'aujourd'hui. Il y a un itinérant qui a été battu, poignardé dans le métro Lionel-Groulx par une bande de jeunes. Le plus jeune a 13 ans. 13 ans. Au début, on pensait que c'était une attaque gratuite. Eh bien non, c'est pas une attaque gratuite. C'est lié au trafic de stupéfiants. Parce que à 13 ans, cette petite gang-là, là, 13, 15, 16, 18, c'est eux qui géraient le trafic de drogue dans cette station de métro-là. Tu sais, quand à 13 ans, tu gères du trafic de drogue dans un métro, tu bats et poignardes un itinérant, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Là, on se dit peut-être que c'est juste une personne. Oubliez pas, la semaine passée, 14 ans. Un gars à 14 ans, dehors de chez eux, à 4-5 heures le matin, avec un pistolet qui tire sur du monde au hasard. Il finit par foncer dans un faire finalement un accident dans la poursuite policière et décédé. 14 ans. Mois de février. Deux jeunes de 14 ans ont été arrêtés pour vol à main armée auprès de différents usagers du métro. Ils volaient des cellulaires, de l'argent. Les accusations ont été déposées sur eux. 54 chefs d'accusation à 14 ans. Je reviens à mon petit gars qui de Lionel-Groulx, là, lui qui vend de la drogue puis qui gère le trafic de stupéfiants dans le métro, qui a poignardé, qui a participé à poignarder, à abattre un itinérant. Il a déjà connu les tribunaux pour un dossier de violence conjugale. Hey, quand t'as un dossier de violence conjugale à 13 ans, parce qu'il a essayé d'étrangler sa petite blonde, ça promet dans l'avenir, ces jeunes-là. Hey! Il y a de la slush chez Couche-Tard. Allez vous prendre une slush puis une pointe de pizza, croyez-moi. C'est bien moins dangereux que vendre de la drogue, battre du monde, les poignarder puis étrangler ta blonde. Dans quel monde on vit? Qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes? Qu'est-ce qui se passe avec le visage de la criminalité qui est en train de changer? Plein de questions, peu de réponses. Bienvenue à Cube et bienvenue à votre nouvel épisode.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Vous avez vu un grand spectacle.
On en a un plus grand encore.
Luc Lavoie.
Écoute, j'ai tellement ri.
Yasmine Abdel-Fadel.
C'est une pièce d'anthologie.
La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel.
Luc, dans le tsunami de mauvaises nouvelles économiques, aujourd'hui, on a enfin une bonne nouvelle qui, d'habitude, n'est pas vue comme une bonne nouvelle.
Voilà, c'est assez paradoxal. D'habitude, de la hausse du taux de chômage, ça sonne l'alarme. C'est le contraire. C'est le contraire parce que, voyez-vous, la Banque du Canada, comme les autres banques centrales, n'ose pas utiliser un langage aussi cru, mais pour que le taux d'intérêt de base recule, il faut que le chômage augmente. Pourquoi? Parce que depuis, ma foi, la nuit des temps, depuis certainement 50 ans, on considère que le taux de chômage, quand il est en bas de 5 %, on est en pénurie de main-d'œuvre. Oui. Alors, on est en pénurie de main-d'œuvre depuis pas mal longtemps. Et ça explique très largement ce qui se passe avec l'inflation. Alors, de voir, par exemple, à l'échelle du Canada, 5,8% que c'était le dernier relevé, maintenant c'est 6,1%. Malgré cette augmentation de 0,3 dixième du taux de chômage en mars, le Québec reste avec le Manitoba, la province, avec le taux de chômage le moins élevé au pays. Là où ils vont vivre une situation très, très difficile à gérer, c'est la ville de Québec. Le taux de chômage est à 3,1%. C'est le plus bas du Canada. C'est quand même assez incroyable. Par ailleurs, pendant des années, des décennies, chaque fois qu'on avait des statistiques du chômage, on apprenait que l'Ontario avait moins de chômage par 1,5-2 points en général. Ben là, cette situation-là, elle est renversée depuis déjà un certain temps, et ça se confirme avec les chiffres de ce matin. La région métropolitaine de Toronto affiche un taux de chômage de 7,5, comparativement à 5,7 pour celle de Montréal. C'est une énorme différence.
Mais ça, c'est une différence qui fait basculer la grande région de Toronto dans une certaine inquiétude. 7,5, c'est quand même un bon taux de chômage. Là.
C'est un taux de chômage très appréciable, en effet. Et il va se passer quelque chose, enfin. Bon, il y a la folie trudeauesque d'ouvrir les portes grandes, puis là, on arrive à ce point où ça déborde.
Oui,
c'est pas le cas au Québec. Entendons-nous là-dessus? En tout cas, pas quand on se fie à des chiffres purement économiques. C'est pas le cas au Québec. Il n'y a pas ce problème qu'ils vivent à Toronto. Au Québec, tu vois, on a été en bas de 5 % pendant des mois et des mois et des mois.
Ben, quelques années, là.
Quelques années, même.
Quelques années.
Et ça explique que les salaires montaient, parce que, je le rappelle souvent, pour mieux comprendre l'économie, il faut toujours se souvenir du principe de base de...
L'offre et la demande.
L'offre et la demande, n'est-ce pas? Alors, quand la demande est plus forte que l'offre, les prix montent. Si tu veux en trouver des employés, puis que tu offres 20 $ l'heure, puis que tu n'en as pas un, ben là, tu vas aller à 22. Puis quand tu vas avoir ce qu'il te faut, tu vas payer ce qu'il faut. C'est incontournable. Ça peut être... Il y a eu une majoration des revenus de 5,1% au cours de la dernière année. C'est quand même beaucoup, là, tu sais. 5%, ça, c'est moyenne générale. C'est quand même beaucoup. Mais il y en a une statistique que je trouve drôlement intéressante. C'est que, depuis un an, l'emploi a progressé plus rapidement dans le secteur public.
Ah!
Tu vois, 4,8% alors que le secteur privé stagne. Ben voilà, ça crée pas de la richesse, ça bouffe de la richesse. Alors, ça fait partie des graves problèmes au Canada. Comment se fait-il que le secteur public est en train de prendre le contrôle?
Il aspire.
Oui, il aspire tout ce qu'il y a de richesse autour, sans en créer eux-mêmes. Alors, moi, je pense que, pour revenir à mon propos de départ, regardons ces chiffres-là. Soyons malheureux pour le père de famille, la mère de famille qui va perdre son emploi parce que, justement, il faut qu'il y ait plus de chômage, sinon l'économie va finir par étouffer. Oui, c'est triste pour eux, mais pour la population en général, c'est une excellente nouvelle.
Quand on parle de 5% de taux de chômage, c'est peut-être aussi, une preuve que la politique monétaire de la Banque du Canada visant à ralentir l'économie finit par avoir... Elle fonctionne.
Elle fonctionne. Elle fonctionne même très bien. Aux États-Unis, ils ont un problème. Hein? Aux États-Unis, évidemment, on rend toujours public nos chiffres de chômage en même temps que les Américains. À l'échelle du pays, leur taux de chômage est à 3,2%. Ça veut dire que dans des villes prospères ou plus prospères que la moyenne, ils doivent avoir 1% de chômage. Ça veut dire comme zéro, t'es incapable de trouver des travailleurs. Là, les gens sont là puis ils veulent que Trump revienne pour qu'il leur amène des emplois. Mais des emplois pour qui?
Il n'y a pas assez de monde.
Il n'y a pas de monde. Puis là, évidemment, aux États-Unis, ce pays qui est un pays qui s'est bâti essentiellement par des vagues gigantesques d'immigration. Là, l'immigration est en train de devenir le sujet numéro un de la campagne présidentielle, et c'est pas d'une façon positive. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ces salauds de traverser nos frontières? Ça, c'est le langage de Trump. Et pourtant, si un pays du monde qui a besoin d'avoir de l'immigration massive, contrairement à Toronto, puis son taux de chômage qui est à 7,5, Imagine une ville comme, prenons par exemple une ville comme Los Angeles ou San Diego. Tiens, une ville extrêmement riche, San Diego. Moi, j'imagine, j'ai pas été fouillé, là, mais 1,5% de chômage. 1,5% de chômage. Leur économie va finir par étouffer. Ça peut pas continuer. Donc, la Banque centrale américaine, la célèbre Fed, son approche ne fonctionne pas. Ils auraient dû serrer la vis un tour de plus pour au moins faire monter le chômage en haut de 4. Il descend sans arrêt. Et tu lis les sondages, puis les Américains trouvent que l'économie va pas bien.
L'économie va très bien, là, pour le moment.
Elle va super bien, mais elle est extrêmement inflationnaire. Ça, c'est grave, c'est très, très grave.
Et ça a un effet sur nous.
Ça a un effet quand on va à l'épicerie, L'épicerie, c'est peut-être ce qui nous frappe le plus en plein front, là. Ça monte, ça cesse jamais.
Mais ça va permettre une autre bonne nouvelle qui va probablement permettre à la Banque du Canada de diminuer, commencer tranquillement la diminution des taux d'intérêt.
Ils sont dus dans un mois pour faire une annonce.
Mois de mai.
Ouais. Moi, je pense qu'ils vont le maintenir là où il est. Ça va vraiment commencer à baisser à la fin de l'été.
Pas avant,
non, je crois pas.
Il y a beaucoup de Québécois qui vont renouveler leur hypothèque d'ici la fin de l'année.
Bien.
Et ils regardent ça avec impatience.
Il y a toujours des perdants dans ça et c'est toujours triste.
Toujours très triste. Luc Lavoie, toujours un plaisir.
Au revoir.
Yasmine Abdel Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes avec les familles des victimes de l'horrible attaque du Hamas du 7 octobre dernier poursuivent le gouvernement fédéral dans sa décision de reprendre le financement de l'UNRWA, qui est finalement l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine et de Proche-Orient. On en parle avec Richard Marceau, vice-président Affaires externes et avocat général de CIJA. Bonjour, Monsieur Marceau.
Bonjour, Madame Abdel Fadel.
Qu'est-ce qui motive cette action que vous posez aujourd'hui?
Ce qui motive notre action, c'est non pas que nous ne voulons pas, et ça doit être clair, que de l'aide humanitaire se rende aux Palestiniens. Évidemment, cette aide doit se rendre, doit être encouragée par tous. Mais nous croyons que l'UNRWA n'est pas le conduit pour faire cela. Nous croyons, et les éléments le montrent, que c'est une agence qui est problématique, dont plusieurs employés ont participé au massacre dont vous faisiez mention au début, donc du 7 octobre. Plusieurs employés sont des sympathisants ou même des membres actifs du Hamas. Nous savons aussi que des installations militaires du Hamas ont été trouvées sous les installations de UNRWA. Donc, c'est aide humanitaire, oui, mais pas à travers...
L'UNRWA est quand même une organisation des Nations Unies, ce qui fait en sorte que elle a un soutien de plusieurs pays. Le Canada n'est pas le seul pays à avoir repris le financement. On a vu le Japon, la Suède, plusieurs autres pays ont mis une pause au moment où on a appris que des employés de l'UNRWA avaient pris part à ce massacre-là. Mais à plusieurs semaines après, le financement a repris. En quoi le Canada est différent des autres pays dans ce cas-ci?
Deux choses. D'abord, le plus grand donateur de UNRWA sont les États-Unis et qui ont décidé de ne pas renouveler le financement de UNRWA. Donc, c'est quand même majeur comme élément à ajouter. L'autre chose, c'est que lorsque Monsieur le ministre Hussein avait dit qu'il suspendait le financement le 26 janvier dernier, il avait dit qu'une décision, à savoir s'il reprendrait ou non le financement, serait rendue après une enquête interne de l'ONU. Lorsque le 8 mars, il a fait cette annonce, l'enquête qu'il devait attendre n'était pas encore terminée. Donc, même dans le processus que lui-même avait mis sur pied, il ne l'a pas respecté, ce qui est en soi aussi un problème de processus assez important.
En même temps, M. Marceau, l'aide humanitaire rentre pas de manière optimale à Gaza. On est en train de, plusieurs experts parlent d'un basculement vers la famine. On voit aussi que des personnes, des travailleurs de l'aide humanitaire ont perdu la vie, tout simplement, au courant des derniers jours. il reste l'UNRWA qui, oui, a des éléments problématiques qu'il faut tasser, mais faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain?
Ben d'abord, deux choses. En termes de denrées alimentaires qui rentrent à Gaza, il y en a plus maintenant, en date d'aujourd'hui, donc le 5 avril, qu'il y en avait avant le 7 octobre. Il y a moins de camions, mais en termes de produits alimentaires, il y en a plus. Donc, c'est un des éléments importants à se remémorer. L'autre, un sous-point à ça, c'est que plusieurs des denrées qui rentrent dans Gaza sont volées, sont kidnappées, sont pris par le Hamas pour donner à ses membres et à ses combattants. Donc, une chose quand même assez importante à faire. L'autre chose, et c'est essentiel, et je pense que votre question est très importante, la tragédie qui est arrivée, des travailleurs humanitaires qui ont été tués, c'est une tragédie qui est énormément triste. Ces gens, y compris un Canadien, là, qui ont été tués, ont volontairement décidé de se mettre dans une zone de conflit pour aider les gens. Donc, ils ne méritaient pas d'être tués, ils méritaient d'être protégés. C'est une erreur tragique qui n'aurait pas dû être acceptée. Le président israélien Herzog a émis ses excuses. Vous avez peut-être vu plus tôt aujourd'hui que deux très hauts responsables de l'armée israélienne ont été renvoyés à cause de ça. Un autre haut commandement a été sérieusement réprimandé. Alors, l'État d'Israël prend cette erreur tragique très au sérieux. Ça n'aurait pas dû être arrivé. Et j'espère sérieusement qu'il y aura une enquête qui déterminera tous les éléments. Mais le fait est quand même que les responsables ont été mis à la porte, ce qui devait arriver.
Pourquoi on n'applique pas la même logique à l'UNRWA, qui a aussi eu des personnes qui ont commis, évidemment, des atrocités, qui ne devraient pas faire partie, qui doit reconnaître qu'il y a des personnes en son sein qui ont pris part à des massacres sans nom et barbares le 7 octobre dernier, mais ça ne doit pas justifier qu'on ferme la porte à l'UNRWA, finalement, puis qu'on continue d'affamer des millions de personnes, 2 millions de personnes qui, aujourd'hui, risquent de basculer dans la famine, selon tous les experts.
D'abord, un, pas tous les experts, mais deux, concernant votre question sur l'UNRWA, c'est pas un problème qui date du 7 octobre. Je suis retourné dans mes dossiers et déjà en 2016, on écrivait au gouvernement fédéral qu'il y avait des problèmes avec l'UNRWA, avec la radicalisation qui était enseignée dans les écoles. Et à l'époque, déjà plusieurs pays reconnaissaient cette problématique de l'UNRWA. Donc, le problème avec l'UNRWA est un problème systémique, est un problème qui est en profondeur et qui, à travers les années, est une agence qui n'a pas réussi à corriger les multiples problèmes qui lui étaient indiqués. Donc, ce qu'on dit, c'est que l'UNRWA est depuis de nombreuses années un problème et que maintenant, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons faire en sorte, un, que l'aide humanitaire se rende sans être prise dans les mains par le Hamas, et deux, si nous voulons construire une culture de paix, parce que c'est ce que nous voulons tous, où Palestiniens et Israéliens, musulmans et juifs, tous les gens dans la région puissent vivre en paix, l'UNRWA a démontré que ce n'était pas une partie de la solution, mais plutôt une partie du problème.
Comment alors venir en aide à cette population qui se trouve dans des situations absolument inimaginables pour la dignité humaine?
C'est une situation qui est très difficile. Il y a deux autres agences de l'ONU, par exemple, qui pourraient être considérées. Le Programme mondial de nourriture, qui a par ailleurs gagné le prix Nobel de la paix en 2020. Il y a UNSCOP aussi, vous pardonnerez l'acronyme anglais, mais c'est les Nations Unies qui fonctionnent surtout en anglais, qui pourraient aussi contribuer à faire en sorte que les denrées se rendent. Vous avez aussi peut-être vu que les Américains ont décidé de construire un quai pour faire en sorte que plus d'aide humanitaire se rende à Gaza et que pour la première fois depuis le 7 octobre, hier, l'État d'Israël a annoncé que Keren Shalom, qui est l'endroit de transition entre l'État d'Israël lui-même et la bande de Gaza, a été ouvert pour la distribution de produits d'aide alimentaire.
Ça a quand même pris finalement une montée de bouclier international de la part de bien des pays, dont le Canada et dont les États-Unis. pour qu'il y ait finalement cette ouverture du gouvernement israélien à accorder plus d'aide humanitaire, à permettre le transit de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Quelles sont vos attentes envers le gouvernement du Canada en déposant cette poursuite-là, M. Marceau? Parce que puis je veux aussi vous entendre sur les familles des pauvres victimes du 7 octobre qui aussi prennent part à cette action de justice. Quelles sont vos attentes?
D'abord, un, c'est qu'en attendant qu'une décision judiciaire soit rendue, que le transfert d'argent des contribuables canadiens à une organisation qui est corrompue et problématique n'arrive pas. Donc, oui, encore une fois, à l'aide humanitaire, non, on aura donc suspension de ça. Et deux, lorsque la décision sera rendue, nous espérons que la décision qui sera rendue sera à l'effet que reprendre le financement canadien de l'UNRWA dans les circonstances actuelles est une décision déraisonnable et qui mérite d'être cassée. Quant aux familles qui ont perdu des proches et qui se joignent au CIJA pour cette poursuite, ils tiennent l'UNRWA responsable en partie de la perte du meurtre de leurs proches. Et ils en veulent au gouvernement fédéral de contribuer de façon indirecte à travers l'UNRWA au Hamas. C'est ce qu'ils trouvent inacceptable, qui a fait en sorte qu'ils voulaient se joindre à nous dans ce processus judiciaire.
Est-ce que, si on utilise encore le même principe, est-ce que la famille, par exemple, du travailleur d'aide humanitaire de Beauce qui a été tué lundi, sa famille devrait aussi poursuivre le gouvernement, étant donné que le gouvernement du Canada a vendu des armes à Israël et c'est finalement l'État israélien qui a tué ce travailleur humanitaire?
Ce sera cette famille-là de décider ce qu'elle veut faire, le résultat de cette stratégie, de cette tragédie. Je ne peux me mettre dans les pieds de cette famille-là. J'ai perdu moi-même des êtres chers, pas dans les conflits, là, mais je sais que perdre un être cher est en soi difficile. Ça doit être encore plus difficile dans une situation de conflit, encore plus difficile lorsque cette personne est une personne de service et qui s'est lui-même placée, cette personne s'est elle-même placée dans une situation excessivement dangereuse pour être au service des autres. Alors, moi, je lève mon chapeau à ces victimes. Ces victimes-là ont ma plus profonde admiration. Cette tragédie n'aurait pas dû arriver. Quant au choix qu'elles feront pour la suite des choses, c'est un choix qui leur appartient.
Vous le dites bien, cette tragédie n'aurait pas dû arriver, cette guerre n'aurait pas dû arriver, le 7 octobre n'aurait jamais dû arriver. Et malheureusement, beaucoup trop de victimes civiles, qu'elles soient juives ou musulmanes, israéliennes ou palestiniennes, je pense que on a tous besoin de faire un petit cri de cœur puis dire que la dignité humaine, ça devrait encore avoir une valeur. Richard Marceau, vice-président affaires externes et avocat général au Centre consultatif des relations juives et israéliennes, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Au revoir.
Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine Abdel-Fadel.
On retrouve avec plaisir Yasmine dans les studios de Kib. Bonjour Yasmine.
Bonjour Véronique.
Alors, il y a 5 jeunes, dont 4 mineurs, qui auraient poignardé une personne vivant en situation d'itinérance à la station Lionel Groulx hier soir. Et au même endroit, la fille de Richard Martineau a aussi été victime d'une agression alors qu'elle attendait tout simplement le métro. Est-ce que, d'après toi, le métro est sécuritaire ou on a raison de s'inquiéter de plus en plus?
Ben, faut pas oublier aussi qu'il y a quelques jours, il y a eu une autre agression d'une personne aînée qui avait été agressée. Le métro est devenu un lieu où on s'attaque aux personnes, on s'attaque aux citoyens, on s'attaque pour voler, pour des problèmes aussi de santé mentale. Il y a des itinérants, des personnes qui sont en situation de toxicomanie, qui sont sous l'influence, qui voient d'autres personnes, mais qui décident de s'en prendre à eux de façon très violente. Et il y a évidemment tout le phénomène de la délinquance là, des jeunes, de la vente de drogue, qui fait en sorte que ça devient un écosystème absolument épeurant, vraiment, là, et anxiogène. Alors, prendre le métro, on peut plus prendre le métro l'esprit tranquille. Il faut être sur ses gardes, il faut être sur ses nerfs, il faut être courageux parce que ces attaques-là ne se font pas de nuit, elles se font pas tard le soir, elles se font aussi en plein jour. Mm-hmm. J'ai des collègues ici à Cube qui prennent le métro pour venir travailler. Nous, on est au coin Berry et Sainte-Catherine devant le parc Émilie-Gamelin. Ah ouais. Et je te dis, Véronique, là, c'est pas une partie de plaisir. Ça donne pas le goût de prendre le transport en commun. Bien du monde ont hâte au Bixi pour ne plus avoir à subir cette crainte perpétuelle que d'être attaqué, d'être apostrophé et de vivre des situations d'agression, qu'elles soient verbales ou physiques, parce qu'on parle pas des agressions verbales. Elles ne font pas partie, elles font pas les manchettes, là. Mais il y en a au quotidien des personnes qui se font apostropher de manière violente et qui réussissent par fuir la situation. C'est absolument inacceptable dans une métropole comme la nôtre qui veut accueillir des touristes là, puis qui veut être une capitale métropolitaine où tout le monde vit de manière sécuritaire, que d'avoir un système de transport qui fait peur au monde.
Et Yasmine, on a quand même des jeunes 13, 14, 15 ans, là, ceux qui ont été arrêtés. Qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes? Il me semble qu'on en entend de plus en plus des cas comme ça, des jeunes qui sont violents, avec en plus souvent des étrangers.
Ben, un des gars qui a été arrêté suite à l'agression de l'itinérant, là, ils l'ont battu avec un bâton télescopique et ils l'ont poignardé. Le plus jeune de cette gang-là avait 13 ans. À 13 ans, il était pas là par hasard parce qu'il fait partie d'une gang qui contrôle le trafic de stupéfiants dans la station Lionel Groulx. C'est assez particulier. À 13 ans, moi, je m'achetais des slotch en trottinette. Il y a du monde qui gère le trafic de stupéfiants à Lionel Groulx. C'est pas la même période, on dirait. Mais cette personne-là est connue des tribunaux, imagine. Est déjà passée devant le tribunal pour, tiens-toi bien, violence conjugale. À 13 ans, il est déjà passé devant le tribunal pour violence conjugale parce qu'il a essayé d'étouffer sa petite blonde. Puis là, on a eu le gars de 14 ans la semaine passée qui a tiré sur du monde au hasard avant de finalement mourir suite à la poursuite policière. On avait également deux jeunes de 14 ans au mois de février qui ont fait une série de vols à main armée sur des usagers du métro. Ils leur volaient leur cellulaire. Oui. Les chefs d'accusation sont tombés. Il y en a 54 chefs d'accusation pour deux jeunes de 14 ans. On a un sérieux problème pour nos jeunes là, de 12, 13, 14 ans parce qu'ils rentrent pas juste dans la petite délinquance, font pas des graffitis dans le coin de la rue. Là. Ils vont voler. Ils ont des armes. Ils tuent du monde. Ils les poignardent et ils vendent de la drogue. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est à 13, 14 ans, on tolère que nos enfants fassent ça.
Les jeunes garçons. Également, la colère des agriculteurs. Il y a des manifestations un peu partout au Québec depuis quelques semaines. Et c'est, on dirait, une nouvelle crise ou en fait, c'est une question que je te pose. Est-ce que c'est une nouvelle crise qui se dessine, d'après toi?
Mais j'ai l'impression qu'on oublie trop souvent nos agriculteurs. Nos agriculteurs doivent produire, évidemment, ils manquent de relève, ils manquent de monde, il y a une pénurie de main-d'œuvre, les taux d'intérêt sont hauts, le prix du carburant est élevé, les prix des intrants des matières premières est énorme et ils n'ont pas d'aide. Puis nous, on s'attend à ce qu'ils continuent à nous nourrir puis à nous offrir des produits de saison, de qualité qui sont proches. Mais on ne leur vient pas en aide. Là. Dans le dernier budget, moins de 1% du budget était consacré à l'agriculture quand on sait que c'est une industrie qui a plusieurs éléments qui viennent ajouter à son incertitude, que ce soit la météo, la pluie, le gel, le dégel, la qualité finalement des semences. Il y a beaucoup trop d'incertitudes et ils se retrouvent à se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix que de vouloir être agriculteur? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que je devrais mettre la clé sous la porte? Aujourd'hui, ils manifestent et ils lancent un cri du cœur, un peu à l'image de ce qu'on a vu en France il y a quelques semaines. Mm-hmm. Et je pense que le gouvernement, s'il ne veut pas que ça grossisse, il doit donner un sérieux coup de barre puis les écouter parce que leur doléance, là, c'est pas tiré par les cheveux, là. Elles sont réelles. Ils souffrent depuis plusieurs années.
C'est intéressant de t'entendre. Et aussi, c'est qu'on pense à la relève en agriculture. Là, on peut penser qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont vouloir faire ça. Alors, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Yasmine. Je te souhaite une bonne fin de semaine.
Merci, Véronique.
Yasmine Abdel-Fadel.
On retrouve Pierre Nantel. Pierre, t'étais une des rares personnes à aller aux funérailles d'Yves Michaud.
Ben oui, puis j'étais heureux d'y être, premièrement. Je pense que c'est un grand citoyen, un grand patriote. Et j'étais un peu surpris de voir que j'ai pas vu, moi en tout cas, j'ai pas vu de parlementaire sur place.
Pas du tout.
Ben écoute, j'ai pas fait l'inventaire avec une loupe, là, mais non, j'ai pas vu de délégation parlementaire. Ceci dit, donc, ça m'a un peu choqué. Par contre, l'atmosphère pendant la cérémonie était vraiment très sereine. C'était de toute évidence un grand-père et un père fantastique, très présent. Une histoire d'amour fantastique entre les deux parents. Ce à quoi la famille a fait allusion beaucoup. Et un moment donné dans la cérémonie, sa fille Anne a mentionné ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale. Et à ma grande satisfaction, ben, ça n'a pas l'importance que moi je sois satisfait, mais ça m'a mis un peu en paix dans le processus parce que elle a spécifié qu'une motion unanime avait été adoptée à l'Assemblée nationale et laissant reposer sur le sol de l'Assemblée nationale tout le blâme que son père avait pu vivre et qu'elle avait bon espoir, puis là, évidemment, avec entre guillemets, par une télé, qu'elle avait bon espoir que le prochain gouvernement s'assure que ce genre d'erreur commise par le Parlement ne se reproduise plus. Fait que j'ai trouvé, et je suis allé la voir après la cérémonie, puis on était là, moi et d'autres personnes, puis on évoquait à quel point c'était beau, avec une telle polémique entourant le décès de M. Michaud, de voir que la famille était en paix maintenant. Tant mieux, les parlementaires ont bien agi, certains peut-être moins que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est ça qui compte, hein, c'est un parlement, c'est pas les individus qui le composent, l'Assemblée nationale a adopté une motion unanime, et la famille est en paix, donc j'ai trouvé ça beau.
On perd beaucoup trop de monde ces temps-ci. On a perdu Brian Mulroney, Paul Hood, Yves Michaud,
ben oui.
Et le dernier, c'est Benoît Pelletier.
Oui, et je dirais que pour Benoît Pelletier, ben, premièrement, je me demandais, toi, tu l'as pas... Il était dans l'équipe libérale, avant ou après toi?
Il a quitté juste avant que j'arrive.
Parce que je pense que M. Pelletier, bon, beaucoup de gens l'ont mentionné, mais pour moi, en tout cas, ça a toujours été quelqu'un de très intéressant parce qu'il passait vraiment out of the box. C'était vraiment quelqu'un... En fait, je pense que... Moi, je trouve qu'on a peu souvent parlé... Mais c'est un excellent représentant de l'Outaouais. Parce que pour l'Outaouais, la souveraineté du Québec, c'est pas aussi simple que pour les Îles-de-la-Madeleine, tu sais. Il y a quand même un enjeu, particulièrement les Îles-de-la-Madeleine, peut-être pas le meilleur choix, mais tu sais, comprends-tu, c'est une région qui est vraiment limitrophe à l'Outaouais. Mais ceci dit, je pense que bien au-delà de ses origines, de ses racines géographiques, il cherchait à trouver une place pour le Québec et une des dernières allocutions que je l'ai entendu prononcer, c'était à l'ITHQ, il donnait une conférence et il était catégorique pour faire face à la perte de poids démographique du Québec au Canada, il fallait que le Québec reprenne le contrôle, puisse gérer son immigration à sa guise, à sa manière, et adopter une constitution. Et puis moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Je trouve que c'est une voix qu'on n'entendait pas assez. Et j'ai trouvé ça dommage parce que, de toute évidence, il avait encore beaucoup d'influence. On se rappellera que lorsque Simon-Jolin Barrette a présenté sa loi 96, il avait puisé beaucoup d'informations auprès de M. Pelletier. Ouais. M. Pelletier avait sorti le concept un peu, puis honnêtement, je dois dire que ça me paraît encore un peu alambiqué. Là. C'est sûr que c'est vrai, mais c'est quand même étrange. J'ai comme évoqué un peu que la Constitution canadienne, c'était comme une grosse commode avec des tiroirs pour chaque province, un peu. Hein? C'est un petit peu ça.
OK.
La loi 96 s'appuyait sur la notion que dans les textes du Québec, on mentionnait que la langue française était... Bon, alors... C'était très créatif et ça donnait toute une légitimité, ce qui révèle bien à quel point un texte comme une constitution a une importance immense par rapport à un pays, une nation. Et la question est là.
Pourquoi aucun gouvernement n'adopte une constitution québécoise? Parce que le Parti libéral le demande. Le Parti libéral, c'est dans son rapport du comité Pratt. Ouais. Et même Dominique Anglade, à course au leadership, s'était engagé à adopter une constitution québécoise. On le sait que le PQ le veut aussi. Québec solidaire. Pourquoi personne ne prend le crayon?
Je me pose la même question que toi. J'ai l'impression parfois que le sujet... Tu dis, le Parti libéral le veut. Les jeunes du Parti libéral, en tout cas, l'ont clairement articulé. Dominique Anglade l'avait fait. Les jeunes libéraux l'ont fait aussi. Les jeunes de la CAQ l'ont fait aussi. Bon, évidemment, PQ, on n'en parle pas. Dans le sens que ça va de soi qu'on serait d'accord d'avoir une constitution. Ceci dit, il y a une forme de... Est-ce qu'on met la charrue devant les bœufs ou les bœufs devant la charrue? On peut discuter de l'ordre, de la séquence des choses. Mais il n'y a pas de doute que d'adopter une constitution, de trouver un texte sur lequel, qui est comme le texte fondamental du Québec,
oui.
On dirait que le consensus est peut-être pas assez sexy pour faire de la politique de tirage de boîte. Hein. Souvent, en politique, malheureusement, là, on cherche des enjeux qui vont permettre de débattre, de s'avantager par rapport à l'un à l'autre. Et c'est dommage parce que, en bout de ligne, je pense que les gens qui connaissent le Québec, les gens qui travaillent en politique, les employés en politique, les politiciennes, les politiciens, tous ces gens-là comprennent ce que tu viens d'exprimer. Tout le monde, tous ces gens-là comprennent qu'il y a comme matière à encadrer, à nommer les choses qui font que le Québec, c'est différent du reste du pays.
Oui, puis une constitution, c'est un texte législatif, on parle de supra, là, tu sais, il est comme au-delà de toutes les règles.
C'est la loi fondamentale.
C'est la loi fondamentale. Me semble que c'est le moment de mettre de la partisanerie à côté, là, puis se dire, dotons-nous d'un texte sur lequel on va tous être d'accord, puis on va tous gouverner en lien avec ce texte-là.
J'ai rien à dire, c'est ça que je voulais dire. Non, mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, puis je pense qu'il y a eu beaucoup de tentatives. Tu viens de Montréal-Nord, oui. Comme moi, d'ailleurs. Ben, moi, dans mon temps, mon député, c'était un député péquiste, c'était Marc-Yvan Morin, et qui a, d'ailleurs, à un peu à la demande de René Lévesque, qui a commencé à écrire une constitution. Il y a eu Daniel Turp avec son nœud papillon. À chaque fois qu'on voit Daniel Turp, il y a un nœud papillon. Fait que si le monde sait qui c'est Daniel Turp, puis le monsieur, il y avait un nœud papillon dans les nouvelles. Alors, cet homme-là a beaucoup travaillé, a écrit un livre complet là-dessus en 2005. C'est un sujet, et je voudrais surtout pas qu'on oublie l'Alliance pour une constituante citoyenne qui travaille là-dessus depuis 20 ans à s'assurer que les gens vont pouvoir avoir leur mot à dire dans la Constitution. Puis je pense que c'est peut-être un peu pour ça que on s'entend pas parce qu'on sait pas par quel bout le prendre. Hein? Je veux dire, les constitutions varient beaucoup. On s'en parlera un moment donné, mais les constitutions américaines, françaises, canadiennes, c'est tout très différent. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts. J'ai même, à l'impulsion de... L'Alliance pour la Constituante citoyenne du Québec, il y avait des ateliers qui s'étaient faits parce qu'il y a eu une pièce de théâtre qui a été produite par le Théâtre d'aujourd'hui avec Christian Lapointe comme metteur en scène qui s'appelait Constituant. Et en amont de cette pièce-là, il y avait 48 personnes qui ont été tirées au sort pour écrire une constitution. Et ce texte de constitution a été déposé à l'Assemblée nationale et tout le monde a fait « Ah, c'est intéressant ». Ils ont fait comme une espèce d'engagement qui est à l'image, d'ailleurs, de la question de la constitution.
Ben oui.
Ils ont dit « Ah, c'est intéressant ». On mettra pas qu'on va adopter une constitution tout de suite, on votera pas, on s'engagera pas, mais on est tous un peu d'accord. Ça finit là encore. C'est encore fini là. Ça a fini dans un... Alors que, factuellement, c'est un sujet fondamental qui mènerait, par exemple, à une forme de symbolique québécoise. Si on avait une cérémonie de citoyenneté puis qu'on avait un texte constitutionnel, ça serait merveilleux. Ben, parce que
une cérémonie de citoyenneté supposerait qu'on ait un pays, là?
Oui, mais on pourrait, ne serait même dans le contexte canadien, on pourrait avoir... Moi, je pense que j'en ai déjà parlé. J'ai présenté une motion à la Chambre des communes pour ça. On peut-tu, au moins au Québec...
Avoir un symbole là, de « tu appartiens au peuple » désormais.
Oui, ou un texte additionnel. Quand j'étais député à la Chambre des communes, moi, j'avais ajouté que j'allais respecter les traités avec les Premières Nations. Par la suite, ça a été ajouté. 5 ans plus tard, tout le monde a fait la même affaire. Mais moi, je pense qu'on pourrait ajouter, quand on devient citoyen canadien, mais qu'on est au Québec, ça serait bien qu'il y ait un libellé.
On pourrait le faire avant la citoyenneté canadienne, parce que tu es résident permanent avant de devenir citoyen canadien.
Pas
alors, pourquoi le Québec ne donne pas ta première identité?
Quand tu reçois ton CSQ, là.
Tu arrives ici, tu dois attendre 3 ans avant d'avoir ta citoyenneté canadienne.
C'est vrai.
Pourquoi on fait pas de toi un Québécois avant que le Canada fasse de toi un Canadien?
Mais il faut être... Bravo! Très bonne idée. Il faut être créatif. Il faut s'assurer qu'on fasse cheminer cette idée-là. Parce que la réalité, c'est que le temps passe.
Ouais.
Puis on perd des joueurs, on perd un sentiment d'appartenance qu'on veut tant créer. Hein? C'est important pour tout le monde.
On ne sait pas comment le créer, un peu comme la Constitution.
Ben, en tout cas, entre toi et moi, c'est clair que lorsque tu reçois ta citoyenneté canadienne puis tu prêtes serment au roi Charles avec un gars de la RCMP à côté, là, puis quelqu'un dit « Tu sais que tu es au Québec, ben, excuse-moi, c'est la même cérémonie que ma cousine a faite à Peterborough, en Ontario. »
Ben oui.
T'sais, fait que je trouverais ça très fédérateur. J'espère qu'on va y arriver.
J'espère aussi, Pierre Nantel.
Bonne fin de semaine.
Toujours un plaisir.
Bye.
Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel Fadel.
Un sujet que j'ai lu dans le Journal de Montréal qui, honnêtement, donne froid aux yeux. Donne froid au dos. Bref, fait peur. Des rituels sataniques qui ont été faits par un homme qui fantasmait à l'idée de violer sa propre fille. Là, tu lis ça, là, tu dis, il y a tellement de choses wrong là-dedans, là, dans ce titre-là, que par où prendre ça, par où comprendre ça? C'est pour ça que lorsqu'on se pose des questions comme celle-ci, on appelle des spécialistes. Et aujourd'hui, c'est Christian Page qui est avec nous. Bonjour, Christian. Vous êtes spécialiste paranormal et auteur. Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu ça? C'est assez particulier. La jeune fille de Québec, finalement, elle découvre que son propre père utilisait des rituels sataniques en fantasmant sur elle. Le satanisme est une chose, l'inceste est une autre, mais là, on a comme un mélange des genres qui est franchement doublement dégueulasse.
Et c'est vrai que quand on va dans l'univers du crime occulte, entre guillemets, très souvent, ce sont des éléments qu'on va trouver qui vont se croiser. Par exemple, le cannibalisme, l'inceste, bon, des activités qui sont tout à fait sordides, qui vont être liées à des rituels sataniques. Mais ici, il faut immédiatement préciser que quand on parle de rituels sataniques, il y a deux niveaux de rituels sataniques. Il y a ce qu'on pourrait appeler le satanisme institutionnalisé, qui n'est pas très grave en lui-même. C'est plutôt,
c'est
je dirais, que le satanisme institutionnalisé, il est né dans les années 60. C'est plutôt un groupement hédoniste. Ce sont des gens qui se réunissent. On se livre à des activités sexuelles entre adultes, consentants. Donc, c'est très du libertinage. Donc, ça, c'est...
C'est considéré comme des satanismes?
C'est amusant parce que le mot sataniste avait été utilisé à l'époque, au moment de la fondation de ces organismes, davantage pour choquer une opinion publique. À l'époque, on le sait, les États-Unis, c'était très chrétien, ça l'est encore aujourd'hui, c'est un pays qui se définit beaucoup par le christianisme. Et à l'époque, on brandissait la menace du diable, c'est une façon de choquer le public. Aujourd'hui, je dirais que beaucoup de ces mouvements satanistes vont plutôt se retrouver derrière des groupements néo-nazis. Le néo-nazi frappe davantage aujourd'hui, choque davantage aujourd'hui que le diable dans les années 60. Donc, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le satanisme institutionnalisé. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées par le FBI, notamment dans les années 80-90, parce qu'on les accusait de se livrer à toutes sortes de crimes. Et les enquêtes du FBI ont démontré qu'il n'y avait rien vraiment de très sérieux là-dedans. Ce qui est plus dangereux, et c'est ce que l'on voit ici, c'est ce qu'on appelle du satanisme artisanal. Donc, des gens s'imaginent un satanisme, s'imaginent ou s'inventent des rituels. Ils vont puiser à différentes sources, souvent sur les médias sociaux. Et là, souvent aussi, ils vont s'inspirer de ce que disent les anti-satanistes. Les anti-satanistes disent « Ah, ceux qui pratiquent le satanisme utilisent des croix à l'envers. Alors, si je suis sataniste, je dois utiliser les croix à l'envers. Ah, les satanistes utilisent des bougies noires. Ah, ben, je vais utiliser des bougies noires. Donc, je me fais mon propre rituel et à travers ça, je vais faire des incantations. Est-ce que faire des incantations au diable, faire des incantations à Dieu, à Allah, la croyance, elle est légitime en soi. C'est la façon dont on va utiliser ces croyances-là ensuite pour appliquer des gestes. Et là, ben, on tombe malheureusement dans des excès. Et c'est exactement ce que l'on voit ici. Que le type soit chez lui, allume des bougies noires avec une croix à l'envers, puis fait des incantations au diable, des aoum, en soi, c'est pas si grave.
Grand bien lui fasse.
Voilà, tout à fait. Mais à partir de là, lorsqu'il utilise cette idéologie sordide pour éventuellement justifier des crimes, c'est souvent ce que l'on rencontre dans les crimes occultes. J'ai écrit des ouvrages sur le sujet où j'expliquais que souvent, c'est le diable qui me dit de le faire. Donc, on se retrouve devant des tribunaux, on se retrouve devant le tribunal, et là, plutôt que l'accusé accepte ses gestes, il va essayer de se décharger en disant, ben voilà, c'est pas de ma faute, le diable me parlait, des vampires me parlaient. Et on n'est pas forcément toujours dans l'antichambre de la maladie mentale. Souvent, ces gens-là, et c'est vrai que des gens bien portants se diraient, ben, c'est sûr que ces gens-là souffrent d'une maladie mentale. C'est pas toujours le cas. Ces gens-là ont des croyances, un peu comme les complotistes. Est-ce que tous les complotistes sont des malades mentaux? Certainement pas. Mais ils adhèrent de manière très farouche à des croyances inébranlables. Et c'est un peu souvent les gens qui croient au diable, qui croient aux vampires, aux monstres, peu importe, les créatures de la nuit. Ils vont s'en servir ensuite pour justifier des gestes qui sont tout à fait là, innommables. Et c'est exactement ce que l'on trouve ici. Un cas patent de crime à caractère occulte, même si on n'est pas forcément dans le meurtre ici.
Mais d'ailleurs, la question que je me posais, c'est est-ce que la personne est avant tout sataniste avant d'être un criminel ou par exemple un père incestueux? Ou est-ce que la personne est avant tout une personne, un criminel, un père incestueux par exemple, qui essaie de trouver lui-même une justification à ses gestes et finalement rejoint un mouvement sataniste pour se dire, OK, ben finalement, tout s'explique avec ça. L'un n'est pas nécessairement la même chose que l'autre.
Et effectivement, et ça c'est une des grandes questions sur laquelle s'est penché le FBI, et on fait une grande distinction entre le crime rituel et le crime ritualisé. Le crime rituel, c'est je commets ce crime parce que j'ai un besoin intrinsèque de le commettre. Hein? Et si je ne peux pas remplir les critères, hein, par exemple, ma voisine, je crois être un vampire, je vais assassiner ma voisine, il est nécessaire pour moi de faire des rituels et de boire son sang. Si quelque chose m'empêchait de faire ce rituel-là, je remettrais le crime à plus tard. Donc ça, c'est vraiment le crime occulte. Le crime ritualisé, c'est mon voisin me tombe un peu sur les nerfs parce qu'il tond sa pelouse un dimanche matin, j'ai des querelles avec lui incessantes, j'assassine le voisin parce que la tombe de sa pelouse me dérange, mais parce que je me définis comme un sataniste, je vais prendre une fourchette et je vais lui graver un pentagramme dans l'abdomen. Évidemment, pour les médias, on aura tendance à définir ça en disant « ben voilà, c'est un crime occulte, on a trouvé l'individu avec un pentagramme gravé sur l'estomac ». Mais en réalité, la raison du crime n'a rien à voir avec le diable. C'est plutôt le diable ici apparaît davantage comme une signature. Et souvent, cette signature va servir à justifier le crime. Et ça, c'est très malheureux. Mais ça, c'est les experts devant les tribunaux qui doivent débattre de cette grande question-là. C'est un terreau excessivement fertile pour les sociologues d'essayer de comprendre ces mécanismes intellectuels, exactement comme les mêmes mécanismes qu'alimentent les théoriciens du complot et tout le reste, qui bien souvent, malgré les preuves évidentes, continuent de s'enliser dans des croyances tout à fait marginales.
Et qu'on se mêle satanisme avec théorie du complot, puis on connaît tous cette théorie que la famille Clinton, puis la fondation Clinton a pris des enfants, puis tient des rituels sataniques en dessous d'une pizzeria quelconque, là. Jamais eu aucune preuve de ça. Mais là, on est en train de mélanger plein de théories, puis plein de croyances, là.
Ce que tu évoques en ce moment, là, ça c'est fascinant pour les sociologues. Parce que dans les années 80, alors que les femmes quittaient le foyer pour aller au travail, on a vu apparaître les garderies, les enfants étaient placés en garderie. Évidemment, les leaders religieux, hein, dans une Amérique très chrétienne, on voyait là-dedans une espèce, dans la façon dont les femmes s'affranchissaient finalement de leur devoir de main. On disait, c'est le diable, hein? Ils remettent l'éducation des enfants à d'autres, etc. Et on a vu apparaître dans les années 80, début des années 80, on a vu apparaître un mouvement qu'on appelait la grande peur satanique. Le mot peur était peut-être un peu exagéré, mais il y avait une inquiétude. Et là, on se disait, les satanistes, ce sont partout, hein? Ils ont infiltré les écoles, les centres de la petite enfance, ils sont au gouvernement. Et ça, c'était au début des années 80. C'était bien réel, hein? Il y a eu des procès aux États-Unis. D'ailleurs, à ce jour, le procès le plus coûteux de toute l'histoire des États-Unis est le procès qui implique une prématernelle en Californie, qui est l'école McMartin, et qui a coûté plus de 11 millions de dollars à l'État, parce qu'on disait que les professeurs, les enseignants, ça donnait des rituels sataniques sur les enfants. Il n'y avait rien de vrai là-dedans. Et soudainement, cette peur satanique s'est amenuisée et a disparu. Et là, on assiste à un retour du balancier. Alors que l'on croyait que la peur satanique avait disparu, mais voilà que des tenants de théorie du complot ressortent à nouveau cette menace satanique. Cette fois, ce sont les méchants démocrates qui sont à la Maison-Blanche, dont le noyau du pouvoir a été contrôlé par les satanistes. On dévore des enfants dans des pizzerias, comme tu l'as mentionné. Et ça, évidemment, ça étonne les sociologues parce qu'on se disait, cette peur satanique, c'est comment peut-on croire à ce retour de l'épouvantail qu'on avait exorcisé dans les années 80 parce qu'on avait clairement démontré que tout ça était de la foutaise, c'était des rumeurs, exactement comme tu le mentionnes dans ces histoires de bébés qu'on mange dans des pizzerias. Les enquêtes menées montrent que ça n'existe même pas. Même la pauvre pizzeria en question n'avait même pas de sous-sol où on pouvait dévorer des bébés. Donc, mais c'est vraiment un retour. Ce qui nous montre qu'à un moment donné, la société, il y a comme des moments où il y a un terreau qui devient fertile à la prise de position, et ces croyances marginales vont trouver une prise dans ces failles, finalement, qui se produisent.
Christian Page, tu le dis de manière très gentille, moi je vais le dire de manière plus crue, on vire sur le top de temps en temps, ça nous arrive comme population. Christian Page, spécialiste du paranormal et auteur, merci beaucoup d'être venu nous parler de satanisme.
Ça me fait plaisir, merci. Bonne journée à tous.
C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube Radio.